Bonjour à toutes et à tous, Viva Culture et cette année à Avignon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Viva Culture est à Avignon. Nous avons vu La Machine de Turing. C'est une pièce qui a été écrite par Benoît Solès et mise en scène par Tristan Petit-Girard. Nous l'avons vu à la Scala Provence. C'est joué également par Grégory Benchenafi. Et c'est l'histoire du génie des mathématiques Alan Turing qui a craqué le code nazi Enigma. Vous aviez peut-être vu le film. Et ici, apparaît sur scène Alan Turing, complètement bouleversant, génial, drôle, émouvant. Et vraiment, c'était un grand plaisir que de voir cette histoire retracée. Voici, nous avons interviewé les deux comédiens. Grégory Benchenafi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'acolyte de Benoît Solès dans La Machine de Turing.
Exactement.
Et alors, je voulais évidemment vous dire toute l'admiration qu'on a pour vous.
Merci beaucoup.
Parce que vous passez d'un rôle à l'autre avec une habileté formidable. Mais aussi, vous êtes très touchant comme personnage. Surtout celui du sergent Ross, bien sûr.
Oui, c'est, disons qu'il y a trois personnages. Il y a un cérébral qui est Hugh Alexander, un qui est plus, je dirais, sexuel, qui est le voyou Arnold Murray.
Oui.
Et le sergent Ross, il est viscéral, donc il se prend d'amitié pour cet homme très étrange pour lui au départ, et il finit par l'aimer comme on peut aimer un ami, quoi.
Oui, c'est ça, parce qu'au début, il est très méfiant, bien sûr.
Il est surtout très méfiant après le coup de fil du MI6. Il se dit, tiens, pourquoi on me demande de surveiller cet homme? Et puis, suite à ça, il découvre Alan Turing de façon extraordinaire et il tombe sous son charme et sous ses idées et sous cette humanité et cette tendresse qu'il découvre pour ce personnage.
Oui, c'est un projet qui vous a plu immédiatement?
Oui, alors je l'ai vu en tant que spectateur une première fois, en 2019, puisque je n'ai pas fait la création du spectacle. Et j'ai été bouleversé par cette pièce, six mois plus tard, ils m'ont appelé pour me demander si je voulais auditionner pour le rôle. Et évidemment, j'y suis allé en courant.
Ah oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et du coup, là, maintenant, vous êtes de toutes les représentations.
En tournée, ils jouent avec Jules Doucet et Amaury de Crayoncourt. Et moi, je fais exclusivement Paris au Palais Royal.
Ah voilà,
au théâtre du Palais Royal.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais alors, vous avez l'habileté de passer du rôle de flic à voyou
Oui, bah c'est un travail qu'on a fait avec le metteur en scène, Tristan Petit-Girard. Et puis, je trouvais ces trois personnages hyper touchants, chacun dans leur registre. Et c'est un cadeau pour un comédien de pouvoir interpréter trois personnages aussi différents sur scène. Donc voilà, ça me permettait moi aussi de pouvoir montrer des choses en tant qu'acteur et d'y prendre un plaisir incroyable.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, vous rendez compte quand même de l'estime et de l'admiration chez tous ces personnages par rapport à Turing, qui est évidemment au-dessus d'eux quand même, par son intelligence, par...
Il est au-dessus par son humanité différente, par son intelligence hors du commun, par son côté enfant ultra touchant, et tous ces personnages se confrontent à cet homme au départ qui les perturbe, et ils sont, je dirais pas antipathiques, mais en tout cas méfiants, voire parfois durs, comme peut l'être le scientifique, et puis ils se rendent compte qu'en fait, ils baissent les armes, parce que cet homme les bouleverse.
Oui, voilà, comme nous.
Voilà, exactement, comme nous, et comme nous, à chaque fois qu'on joue cette pièce, on en ressort bouleversé par l'histoire qu'on raconte, la portée qu'elle peut avoir, et l'impact qu'on voit sur le public qui
exactement, parfois on a les larmes aux yeux.
Oui, et nous aussi.
Et vous aussi. et parfois on rit.
On rit parce que c'est un personnage qui, dans sa maladresse, est très très drôle.
Oui.
Et qui, du coup, crée des situations face auxquelles on se retrouve, nous, en face. Et on est obligé de s'attendrir et d'en rire, quoi.
Oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, un grand merci, Grégory.
C'est moi qui vous remercie.
Benoît Solès, bonjour.
Bonjour.
On est à la sortie de votre spectacle, La Machine de Turing. Alors évidemment, je voudrais vous dire toute l'admiration et l'émotion surtout. J'ai l'impression que c'est un texte que vous portez depuis très longtemps.
Oui, l'auteur, bonjour, j'en suis l'auteur d'après évidemment une biographie et une première pièce anglaise qui ont été faites sur Alan Turing et que j'ai reformulé à ma façon, en mettant peut-être l'accent sur l'homme, l'humain au cœur de la machine, et voilà, pour faire une espèce d'équation émotionnelle de Turing en forme de biopic, mais surtout de pièce posant mille questions sur l'homme, les mathématiques, la destinée, Dieu. Et je l'ai créé ici, il y a 4 ans, dans le Hof, dans une petite salle, et elle a eu depuis une destinée assez extraordinaire, mais c'est vrai que cet homme-là est un homme qui a changé le monde et qui a ensuite aussi connu la persécution à cause de sa différence. Donc, tous ces hommages qu'on lui rend, c'est justice.
Oui, c'est ça. Manifestement, alors, la confrontation machine et être humain dans son intimité, dans le fond, est très passionnante. Mais manifestement, vous insistez sur le côté fragile, le côté victime, peut-être.
Il a mille fragilités. D'abord, un bégaiement, un autisme, probablement. Mais il a une grande force aussi, parce que quand il se dresse devant la justice, il le fait avec un courage et une force dont beaucoup d'autres ne seraient pas capables. Donc il y a chez les gens sensibles, voire chez les gens fragiles, aussi une grande force. En tout cas, lui en avait, oui.
Oui, oui, oui. Et alors, vous le placez aussi sur le plan, universel, l'inventeur de l'ordinateur.
Oui.
Le clin d'œil à la fin, il est très émouvant.
Et oui, parce que vous savez que ça reste un débat qui n'est pas tranché, mais certains disent que le logo de la firme Apple est un hommage direct à Alan Turing. D'autres disent que c'est pas vrai. On pense aujourd'hui que Steve Jobs, le président d'Apple, ne pouvait pas relier directement le logo à Alan Turing, bien que ce logo ait été arc-en-ciel à une époque comme le drapeau de la communauté homosexuelle, pour des raisons commerciales, tout simplement, parce qu'il avait peur de ne plus vendre d'ordinateurs au Moyen-Orient ou dans un des 13 pays où l'homosexualité est punie de la peine de mort. Mais bon, peu importe, ça fait partie de la légende de Turing. Mais ce qui est vraiment émouvant, c'est de voir qu'aujourd'hui, au-delà des mathématiques, au-delà de la cryptanalyse, au-delà de la Seconde Guerre mondiale, il porte une espèce de message universel qui dit « Sois toi-même, fais de tes fragilités des forces et affirme-toi ». Alors, je crois que c'est pour ça que ça touche toutes les générations, au-delà d'ailleurs de la guerre des mathématiques.
Oui, alors ce qu'il y a aussi très émouvant dans votre parti pris, c'est l'amitié.
Ouais.
Oh là là, là, c'est une amitié qui n'est pas évidente dès le début, on a des craintes, bien sûr.
Ça, c'est la partie la plus inventée de l'histoire, parce qu'il n'y a pas eu d'amitié avec ce policier. Mais j'ai inventé ça dans la pièce pour montrer finalement le chemin que le monde peut faire en face d'un Turing. C'est-à-dire, en général, au début, le rejeter, le trouver différent, le rejeter, avoir peur de lui, voire même aller contre lui. Et puis, en le connaissant, en le rencontrant, en le découvrant, le comprendre et sans forcément l'aimer de façon amoureuse, éprouver de l'admiration et de l'amitié pour lui. Et c'est le chemin que le monde a fait. Au début, on a stigmatisé, condamné cet homme. Aujourd'hui, on le célèbre. Donc, c'est ce parcours que symbolise la trajectoire amicale du policier.
Vous faites aussi une performance de comédien, avec le bégaiement en particulier. Moi, j'ai admiré comment vous aviez
perfectionné
cette diction.
Il fallait observer des bègues, ou plutôt d'ailleurs chercher le bègue en soi. Je ne suis pas bègue, vous non plus, mais ça nous est tous arrivé dans des circonstances d'émotion ou d'être impressionné, de bégayer. Il faut aller chercher en soi son bègue enfoui ou son autiste enfoui. On en a tous un en nous.
Oui, oui, oui. Et alors aussi, ce qu'on apprécie, bien sûr, c'est la part d'humour.
Oui. C'était important. C'était important parce que dans une pièce qui est une tragédie, on sait bien qu'il va mourir, ou beaucoup de gens s'en doutent. C'était important de montrer ça parce que je pense que ça lui ressemble. Il en avait. D'abord, c'est assez anglais de rire de tout et surtout de ses propres malheurs. Et je trouve que ça, c'est aussi un contrepoint de comédie à ce qui est une tragédie. Et comme il était très complexe et très complet, je n'imagine pas trop cet homme pleurer sur lui, mais plutôt faire une blague en disant « Regardez ce que je suis devenu ». Et bon, voilà.
Le personnage vous a beaucoup apporté,
oui. Oui, c'est un personnage qui fait se poser des questions et qui encourage à s'en poser. Et puis, à titre plus personnel, je dois bien reconnaître qu'il a changé ma vie parce que cette pièce rencontre un succès inédit, inattendu. Oui. Et c'est émouvant parce que je l'ai fait il y a une dizaine d'années, quand j'ai eu l'idée de parler de lui, tout le monde me disait « aucun intérêt, ça n'intéressera personne ». Et bon, finalement, ça s'est passé autrement.
C'est la question qu'on se pose encore, bien sûr, quand on voit une pièce. Pourquoi cette pièce-là aujourd'hui? Dans notre monde.
Je ne saurais pas.
Avec le big data, avec
Je ne peux pas expliquer, pour terminer, je ne pourrais pas expliquer vraiment les raisons de son succès. Je pense qu'il y a des choses qui nous échappent et que certains sujets, à un moment, entrent en résonance avec une époque. Et je crois qu'aujourd'hui, au-delà de la guerre, au-delà des machines, il y a sur toutes les questions très complexes qui nous posent quelque chose qui correspond à des questions peut-être que l'on se pose. Et puis je crois qu'on a un besoin intemporel de théâtre, d'émotion, et la pièce en apporte des fortes, et je crois que les gens viennent pour ça.
Benoît Solès, un grand merci.
Merci, merci à vous.
Pour cette interview et puis pour ce que vous avez fait tout de suite.
Merci. Merci.
La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Histoire que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage, un matin. Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux. J'aimerais peut-être, oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Qui s'endort aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre. Je sais, mais je peux pas m'arrêter vu qu'il n'y a plus de nom sur les gars. Oh, je cours.